les jardinières.
Bonjour et soyez les bienvenus parmi les jardinières. Février est terminé, voici le beau mois de mars. On s'approche gentiment mais sûrement du printemps. Mais attention, les saints de glace sont encore loin. Moi j'en connais une qui n'est pas de glace et qui m'accompagne ce matin, c'est Mylène, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous. À mon tour de vous présenter celui qui répondra à toutes vos questions durant une heure. C'est Tom le jardinier, bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
Tom le jardinier que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux ou directement sur son site tomlejardinier.com. En un mot, vous y trouverez une foule de bons conseils et de vidéos sur le jardinage et sur la cuisine aussi. Mais ce matin, Tom le jardinier est là pour vous. Posez-lui directement vos questions par téléphone au 0901 70 20 20. C'est 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur la page des jardinières sur nos sites internet. Et bien sûr, soyez généreux avec les détails.
Eh bien les jardinières, c'est parti pour une heure. Notre première question nous vient de Charles de Seignelégier. Il aimerait connaître quelles plantes d'extérieur, si possible jolies, hein, c'est toujours mieux, sont résistantes à une exposition ombragée.
Alors Charles, je vais lui conseiller de prendre quelques vivaces, comme ça elles reviennent d'année en année. À une exposition un petit peu plus ombragée, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des fleurs, donc j'ai des jolis feuillages à y proposer. Des hostas ou du lierre, il y a même certaines variétés de lierre panaché, des fougères pour donner un petit côté un peu préhistorique à cet endroit. Et avec peut-être des fleurs, il y a l'achillée millepertuis qui pourra embellir son coin à l'ombre.
Et puis le problème avec le lierre, ce ne serait pas que ça envahisse un peu tout, parce que moi je connais le lierre, ça vient partout quoi.
Alors, ça vient partout, mais généralement dans les coins à l'ombre, c'est un petit peu des coins ingrats. Et puis, c'est qu'il n'y a jamais un beau gazon, ou c'est jamais un coin, c'est qu'on y va souvent, c'est pas là où c'est qu'on va poser notre chaise longue, c'est pas là. Donc, ces plantes un petit peu envahissantes ou un petit peu tapissantes, ben, ça permettra de bien structurer, puis d'être demandé moins d'entretien, puis ça restera vert.
Parce que du lierre, finalement, ça pousse tout seul.
C'est un peu ça.
C'est bien. On enchaîne avec une question de Jessica de Beaule. Elle vit en appartement et souhaite planter des plantes aromatiques. Est-ce qu'elle peut en cultiver en pot sur les rebords de ses fenêtres?
Alors là, attention, on est encore au mois de mars. Donc, comme Sophie l'a dit avant, les saints de glace, ça n'a pas encore arrivé. Et puis surtout qu'en pot, le gel, il peut attaquer tous les côtés du pot de la plante. Donc, il y a des risques encore de gel. Quelques vivaces, elle peut essayer de tenter déjà avec une lavande, par exemple, ou un thym, qui risque pas de poser trop de problèmes. Pour le lierre, pour le persil, je reste à mon lierre. Ça résiste au gel, mais alors, je sais pas dans quel état il risque d'être plus tard dans le printemps, parce qu'il risque d'être assez abîmé par ce gel, puis tout de suite monter en fleurs, et il sera plus beau à l'été.
Le persil, c'est une plante, je ne sais plus le terme exact, mais ça vit...
Bisannuel.
Mais par exemple, la lavande, le thym, le romarin...
C'est vivace.
Ouais. Mais est-ce qu'elle peut les laisser dans ce pot jusqu'à l'année prochaine, ou ça serait mieux que... Parce que si elle les rentre, tout d'un coup, la plante, elle va se prendre 20 degrés dans les racines, elle ne va pas aimer, quoi.
Alors, elle peut les laisser, je ne sais pas si elle a peut-être un parking à vélo dans son immeuble ou des endroits un peu comme ça, où c'est qu'il ne gèlera pas, mais ça sera toujours à la lumière et puis il fera plus frais.
On parle beaucoup de soleil et d'ombre hein, ce matin. Astrid demande conseil pour sa terrasse qui est très ensoleillée et elle aimerait y mettre des fleurs. Alors, quelles fleurs pourraient trouver leur bonheur sur cette terrasse sans craindre de cramer au soleil?
Alors là, je ne vais pas conseiller des vivaces, parce que les vivaces, ça a une période de floraison assez courte sur une courte durée. Donc, on va prendre plutôt des bisannuels pour cette période où c'est qu'on n'est encore pas dans les grandes périodes où c'est qu'on met tous les géraniums, tout ce genre de plantes-là. Maintenant, on va plus être sur la primevère, sur les pensées, les jonquilles, toutes ces plantes un petit peu printanières. On les voit souvent dans des décorations pour les fêtes de Pâques. C'est la bonne saison pour les planter maintenant. C'est trop tard si elle veut mettre des tulipes en bulbe. Les jonquilles, on en trouve dans les jardineries déjà en pot, prêtes à être fleuries. et ça va être un aspect décoratif instantané.
On parle, c'est Micheline qui nous a écrit, elle a lu dans un magazine de jardinage qu'il fallait vaporiser de l'eau sur les feuilles de ses plantes vertes, mais elle aimerait savoir pourquoi finalement.
Alors, c'est recommandé de vaporiser cette eau-là, mais toujours, on préconise de l'eau non calcaire, parce que le calcaire, ça risque de faire du dépôt sur les feuilles. Et puis pourquoi on fait ça? C'est pour apporter de l'humidité dans l'air. Toutes nos plantes d'intérieur, généralement, c'est des plantes tropicales. On imagine bien que dans nos intérieurs, il ne fait pas la même humidité que sous les tropiques. Donc, c'est essayer de recréer cette atmosphère un peu humide qu'il y a dans les forêts tropicales.
Et puis pour obtenir de l'eau non calcaire, est-ce qu'elle peut, par exemple, mettre un petit bouchon de vinaigre dedans? Ça va sur la plante?
Moi, je ne le ferai pas comme ça. J'ai récupéré bêtement de l'eau de pluie, en fait.
Ah bah oui, en plus, c'est gratuit.
Et voilà.
Allez-y, Mylène.
Je voulais juste demander à quelle fréquence il faut pchiter la plante.
Moi, je le fais pratiquement tous les jours quand j'ai sur mes plantes d'appartement. C'est juste, je sors de ma cuisine et puis voilà. Mais... ce qui est important, c'est de connaître son humidité ambiante. Le problème de nos appartements maintenant, c'est qu'on a des chauffages au sol, tout ça. Ça sèche extrêmement l'air. Et même pour nous, c'est pas bon d'avoir ces atmosphères trop secs. On tousse tout le temps sans avoir la grippe dans nos intérieurs. Donc, connaître son humidité de l'air, puis arroser nos plantes comme ça.
Merci Tom pour tous ces bons conseils. On va faire une pause musicale, mais Sophie, avant, vous allez nous rappeler comment nous joindre, comment poser vos questions.
Alors, vous pouvez tout simplement le faire par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez comme ça directement discuter avec Tom le jardinier. C'est plus simple pour répondre à vos besoins. Et sinon, il y a soit le formulaire que vous trouvez sur nos sites internet ou alors le SMS. Vous envoyez le mot jardin, vous laissez un espace et vous tapez votre question. Et vous envoyez le tout au 939.
Les jardinières.
Des jardinières, toujours en compagnie de Tom le jardinier. Ça va bien, on va aller au jardin avec une question de Julie des Breleux qui nous dit: j'ai un lilas dans mon jardin, il est assez grand et j'aimerais le tailler. Est-ce trop tard? Va-t-il encore donner des fleurs si je le taille maintenant?
Bonne question. Justement, si on le taille maintenant, il risque de ne pas fleurir. Donc, on dit que le lilas, le meilleur moyen de le tailler, c'est de s'en faire des bouquets. Donc, tailler juste quand il est en fleur ou juste après la floraison. Ça fait partie comme des plantes, comme le forsythia, des arbustes, tout ça, qu'on ne taille que juste après la floraison.
Mais bon, elle ne va pas se faire un bouquet avec des grosses branches. Elle coupe les fleurs, puis après, elle peut couper la branche derrière aussi.
Voilà.
Et comme je sais que Tom, le jardinier, vous y connaissez pas mal en plantes comestibles et tout ça, est-ce qu'on peut manger les fleurs de lilas ou en faire quelque chose en cuisine?
Alors ça, bonne question. Moi, j'en ai jamais rien fait.
Voilà, j'avais juste envie de vous poser la question, donc on se renseignera un autre moment, une autre fois peut-être, qu'on peut manger du lilas.
Mais on va parler d'oignons, si vous voulez manger des oignons
à
7h21. On reste donc dans les plates-bandes avec une question de Jérémy de Portalban qui a conservé des oignons de jacinthe cette année et il aimerait les mettre en pot ou en pleine terre. Enfin, il aimerait savoir quels sont les meilleurs conseils que vous pouvez lui donner pour avoir de belles fleurs.
Alors, les oignons de jacinthe, si on les mange, on n'est pas bien, hein, déjà. Ce n'est pas les mêmes oignons que ceux qu'on mange. Mais alors, il faut qu'ils se dépêchent. Et je ne suis pas sûr qu'ils risquent d'avoir des résultats si les plantes maintenant. Parce que la jacinthe, elle a besoin d'une période de dormance pour s'installer gentiment dans le sol. C'est plutôt des oignons comme ceux de la tulipe qu'on plante à l'automne. Donc, ce qu'on voit maintenant dans le commerce, pour le dire, ils passent leur automne ou leur fin d'été dans des frigos pour pouvoir arriver en avance dans nos supermarchés ou dans nos jardineries maintenant en fleurs. Donc vraiment, ça a besoin de froid. Il faut qu'ils se dépêchent, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura assez de froid pour qu'ils fleurissent cette année. Donc tentez quand même de les planter, mais je ne suis pas sûr que le résultat soit positif.
On va rester avec des plantes en pot, avec cette question de Christian qui a un aloe vera en pot. Il aimerait le multiplier. Comment doit-il faire?
Alors, l'aloe vera, généralement, il fait des petites tous au pied de la plante, puis ça fait des petits rejets. Et puis, s'il en a, c'est le moment d'intervenir. Sinon, c'est qu'il est trop jeune. Il n'a encore pas été assez dans son pot pour pouvoir le multiplier. Donc, ces petits rejets, on les coupe, on les laisse cicatriser jusqu'à 2 semaines sans mettre d'eau, sans mettre rien, juste à l'air libre pour que la plaie cicatrise. Et après, à ce moment-là, on peut le replanter dans un pot avec un substrat assez léger et drainant avec beaucoup de sable.
Et je me demandais, les aloe vera, est-ce qu'elles supportent un climat comme le nôtre pour être à l'extérieur ?
Pas du tout, non. C'est une plante succulente, donc c'est pas. Alors on la mange, cette fois l'aloe vera on le mange, mais ça retient l'eau en fait. C'est des tissus qui sont imbibés d'eau pour retenir l'eau. C'est plutôt des plantes des pays secs et c'est un moyen pour la plante d'emmagasiner l'eau.
D'accord, donc on la laisse à l'intérieur. Pas trop loin d'une fenêtre.
Pas trop loin d'une fenêtre, pas trop loin d'un radiateur presque, parce que attention au courant d'air par contre des fenêtres qui peut faire des petits chocs.
Ah, elle est fragile en plus, l'aloe vera. Merci Tom.
Je rappelle donc que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Hein. Tom, on va passer à une question de Jacques, qui a déménagé dernièrement et son ficus Benjamina n'a pas tellement apprécié les changements. Il perd ses feuilles. Comment est-ce qu'il peut le sauver ?
Alors, je m'inquiéterais pas trop encore maintenant, parce que ça peut être le déménagement, mais s'il l'a mis dans des bonnes conditions, savoir pas trop loin d'une fenêtre, avec un petit peu d'humidité, ça peut être juste le fait qu'on est en hiver, et les plantes, elles adaptent leur feuillage en fonction de la lumière qu'elles reçoivent. Moins elle reçoit de lumière, moins elle va avoir de feuilles, parce qu'elle va enlever toutes les feuilles qui feraient de l'ombre à d'autres feuilles. Donc, pour le moment, je m'inquiéterais pas trop. Par contre, si au printemps, et s'il n'est pas dans des bonnes conditions, il ne repart pas bien, là je m'inquiéterais un petit peu plus. Donc, s'il est à côté d'une fenêtre et qu'il a assez d'eau, qu'il n'est pas dans une atmosphère trop sec, je ne me ferais pas trop de soucis. C'est bêtement peut-être qu'on est en plein hiver.
Oui, donc ce n'est pas la dépression du déménagement. On reste toujours sur des plantes d'intérieur. Sophie, elle aimerait installer une grande plante d'environ 2 mètres à 2 mètres 50 dans son salon. Sacré salon. Un salon très ensoleillé. Que lui conseiller comme plante ?
Alors, on a parlé des ficus avant, le ficus benjamina, mais il y a d'autres ficus dans cette famille. Typiquement, il y a un ficus que j'aime beaucoup, qui a un aspect assez rustique, c'est le ficus lyrata. Ça fait des grosses feuilles qui donnent un aspect presque jungle à notre intérieur. Il y a aussi le palmier d'intérieur qu'on appelle le kentia, qui fait une ambiance tropicale dans notre maison. Et puis le philodendron qu'on appelle aussi monstera, qui fait des feuilles assez énormes, avec des trous dedans, c'est assez joli. Et c'est une plante qui a ça la mode ces temps. On en voit, si on est un petit peu connecté sur les réseaux sociaux, les gens qui se prennent des photos dans les jungles urbaines, c'est vraiment la mode de cette plante.
Donc Sophie, si vous voulez être à la mode, hein, c'est le
philodendron.
Dendron, philodendron, c'est joli comme nom.
Merci Tom le jardinier. Donc Tom, je rappelle, vous êtes encore là pendant une bonne demi-heure. Et si vous avez des questions à poser, on fait un petit rappel avant de faire une petite page météo et inforoute, Mylène.
Oui, vous pouvez nous joindre par téléphone au 0901 70 20 20, c'est 36 centimes la minute. Vous avez aussi l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur la page des jardinières. Ça, c'est sur nos sites internet. À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières, les jardinières.
Les jardinières fidèles au poste sont en votre compagnie jusqu'à 8h. Si février était un mois magnifique, mars arrive dans le froid avec le retour de la neige. Le soleil nous avait donné envie de bêcher le jardin, mais le retour du froid nous donne plutôt l'envie de boire un chocolat chaud au coin du feu. Alors que faire par ces temps maussades au jardin ?
Tom le jardinier est l'invité des jardinières aujourd'hui. Tom le jardinier qui nous offre ses conseils jardinage via son site tomlejardinier.com. Et il est là ce matin matin jusqu'à 8h. Pour poser vos questions à Tom, rien de plus simple, attrapez votre téléphone et composez le 0900 70 20 20, c'est 36 centimes la minute. Sinon, vous avez l'option message, vous tapez jardin, un espace, votre question, et vous envoyez tout ça au 939 ou encore via notre site sur la page dédiée aux jardinières. Vous remplissez simplement le formulaire à disposition et dans tous les cas, ne soyez pas avare sur les détails.
7h, 8h, les jardinières.
Une question de Lisbeth qui nous vient de Courcelon. Elle aimerait de jolies fleurs rapidement devant chez elle. Elle a de grands bacs, 1m20 de long, 40 cm de large et 50 cm de profond. Tom, qu'est-ce que vous conseilleriez à Lisbeth de planter ?
Alors, où c'est que je suis un petit peu embêté, c'est qu'elle dit qu'elle aimerait des fleurs rapidement devant chez elle. Si elle veut quelque chose d'instantané, on part de nouveau sur les bisannuels. Donc c'est penser les primes verts, les genres de plantes-là qu'on a qui seraient belles pratiquement instantanément. Par contre, ben, comme c'est une bisannuelle, il faudra la remplacer au mois de mai par des annuels. Ce que je peux conseiller de faire, c'est de mettre quelques vivaces, et après planter devant des annuels ou des plantes en bulbe pour un petit peu mélanger tout ça, pour que ben, son bac elle ne doit pas le changer 3 ou 4 fois par année, et puis garder avoir de plus en plus de vivaces, varier les plaisirs en termes de vivaces, dès qu'il fleurit plutôt au printemps, dès en été, en automne, puis comme c'est devant chez elle, aussi prévoir l'hiver avec peut-être un petit arbuste avec de l'écorce qui est décorative. On a du cornus alba ou le cornouiller blanc en français qui a une jolie écorce rouge vive, décorative en plein hiver.
Et je me demandais, est-ce que dans ces bacs, elle pourrait planter des choses en étage ? Par exemple, les premières qui vont pousser, on met les graines dessus, après on met dessous, et puis, vous voyez ?
Un sandwich.
Ouais, ou en lasagne.
Ouais, alors,
je sais pas.
Vous avez faim ce matin, Mylène ?
Un petit peu.
Alors, c'est une idée, mais on peut faire ça avec les bulbes en ayant quelques plantes, mais ça se fait plutôt à l'automne. Par contre, en parlant d'étage, dans ces 1m20 par 40 cm, ce qui est important et intéressant, ce serait aussi de varier les hauteurs des plantes en elles-mêmes pour un peu donner du volume, parce que si on reste sur quelque chose de plus plat, ça sera moins décoratif que mettre par exemple un ou deux arbustes, puis au pied peut-être des vivaces un peu moins hautes, puis après quelques petites... Les pensées qui ne dépassent pas 10 cm, ça peut avoir son aspect décoratif, mais ouais, varier les hauteurs.
On sent l'envie de Tom de donner une vie à ce bac à fleurs. Dave nous pose la question suivante. On m'a offert il y a un mois environ un muscari en pot. Il a très vite poussé et a grandi et a fait de hautes tiges bien droites et redressées avec de jolies fleurs bleues. Ça fait quelques jours que toutes les tiges, feuilles, sont toutes retombées tout autour du pot et que les fleurs tombent au sol en faisant des miettes. Alors, est-ce normal ? Que doit-il faire ? Et il vous remercie d'avance.
Alors, le muscari, c'est une plante comme une tulipe qui d'habitude pousserait dehors. Là, on est dans le, entre guillemets, les délires des jardiniers. C'est ramener ça, toutes les plantes en intérieur en hiver, parce qu'on n'a pas grand-chose en fleurs en plein hiver. Donc ce muscari, d'habitude, il est dehors, il fait sa petite floraison au printemps, et après, il va sécher et mourir jusqu'au printemps prochain parce que c'est des bulbes. Donc, pas trop de panique, il a eu chaud, il a fleuri et maintenant il est en train de sécher. Donc, il peut continuer à l'arroser, continuer à le laisser au soleil jusqu'à ce que le feuillage devient jaune, sèche et tombe. Et à ce moment-là, s'il veut les avoir dans son jardin, s'il est dans le jardin, il pourra seulement les planter à l'extérieur.
Merci Tom le jardinier. On a une question de Francie de Couvet. Je cite, qui pourrait me dire ce qu'est l'ail des fleuristes ? Alors à mon avis, il n'y a que vous qui pouvez lui dire. Hein. Il vient d'en recevoir en cadeau, mais rien ne lui dit quand, où et où planter un de ses petits oignons.
Alors, l'ail des fleuristes, on en voit de temps en temps si on feuillette les magazines de jardinage. Ça fait des... En fait, l'ail, même l'ail qu'on consomme, si on le plante, si on le laisse l'hiver et s'il fleurit au printemps, ça fait des fleurs en gros pompons blancs. Là, il y en a des variétés violettes, roses aussi, qui sont très très décoratives. Donc l'ail des fleuristes, c'est ces gros pompons, c'est de l'ail cultivé volontairement pour avoir ces gros pompons violets dans son jardin. Donc, s'il veut, encore une fois, c'est une plante qui se plante à l'automne, qui sera en fleur au printemps, donc c'est encore une fois un peu tard s'il veut la planter, donc se dépêcher de la planter, espérer qu'il fasse pas trop trop beau, avoir un... pour pouvoir avoir cette période de dormance.
Vous allez vous faire détester si vous dites ça. On espère du froid, on espère du moche pour que ça pousse.
Ben pour ces fleurs, oui, parce que ça a besoin de cette période de repos, de dormance au jardin pour pouvoir fleurir ce printemps.
On va poser une dernière question avant la pause musicale. On a Willy, de bien. Pardon, qui se demande s'il peut incorporer du bambou passé au broyeur dans son compost. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Parce qu'on sait que le bambou, ça prolifère à une vitesse assez folle. Donc si on met dans le compost, est-ce qu'après, quand il va mettre le compost sur son jardin, il y en aura partout?
Alors, la question à se poser, c'est si oui ou non il y a des racines. S'il y a des racines, justement, ça pourrait être un moyen de multiplication à foison de ce bambou dans son jardin. Donc, s'il n'y a pas de racines, pas de crainte.
Donc, même les racines broyées, on ne met pas au compost.
Le pire, que c'est le pire qu'on peut faire.
Mais alors, on fait quoi? Si là, je veux me débarrasser du bambou, je peux pas mettre dans mon compost à moi, je ne veux pas mettre non plus au compost du village.
Alors, la méthode la moins religieuse, ce serait de la mettre à la poubelle.
Oh.
Ou sinon, ben, faire un feu.
Un feu pour la première torée, là, de Châteloise.
Je ne sais pas si ça donne un bon goût à la viande.
Merci Tom. On va faire une pause musicale, mais avant, on va vous rappeler comment nous joindre, comment poser directement vos questions à notre invité ce matin.
Alors, vous pouvez tout simplement le faire par téléphone, hein, au 0900 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Sinon, toujours avec votre téléphone, vous pouvez envoyer un SMS au 939. Vous n'oubliez pas d'indiquer le mot jardin avant d'écrire votre question. Il y a sinon le formulaire que vous trouvez sur nos sites RJB, RFJ ou RTN.ch.
Les jardinières.
Dernier quart d'heure des jardinières, nous sommes toujours en compagnie de Tom, le jardinier. On avait une question à propos d'un sorbier des oiseaux, c'est Pauline Desbois qui nous pose la question. Elle aimerait en planter un dans son jardin et elle aimerait le planter à 5 mètres de sa maison. Alors elle se demande si la distance est suffisante.
Alors, je serais elle, je le déplacerais un petit peu de la maison quand même, parce que c'est une plante qui peut quand même atteindre 5 mètres de haut. C'est un arbre qui peut atteindre 5 mètres de haut. Mais juste un petit peu pour parler de ce sorbier des oiseaux ou des oiseleurs, tout dépend de d'où c'est qu'on habite. C'est quand même c'est un bel arbre qui fait des... Surtout, on le reconnaît parce qu'il fait des grappes de fruits orange, rouge, très très décoratifs. Puis on peut le faire en confiture, on peut aussi en faire de l'agneau, par exemple... je le décalerai quand même un petit peu. Et puis l'utilisation des fruits, si elle veut les consommer, ils ont besoin d'une petite gelée pour être encore meilleur. Puis il faut faire attention parce que les oiseaux en raffolent. C'est pour ça, sorbier des oiseaux.
Ça ressemble aussi au cynorhodon finalement.
Beaucoup plus haut.
Voilà, en plus haut, mais aussi pour la gelée, pour les consommer.
Ouais.
Sophie, vous avez un téléphone pour Tom.
On a reçu un appel, c'est Sylvia Desgenevais qui est en ligne et qui a une question à vous poser. Bonjour Sylvia.
Bien le bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'aimerais juste savoir, j'ai un bac en béton devant la maison, plein soleil, mis avec de la terre normale, et dedans il y a un if, un sapin nain et un peuplier. Mais l'année passée, j'ai dû enlever la terre. Plusieurs fois, il y avait des grands vers blancs dedans.
Alors, ouais, c'est peut-être des... j'ai un blanc, là, mais... ouais, vert blanc.
C'est des grands...
Des
hannetons. Gros verts, comme
des hannetons. Des hannetons.
Est-ce que c'est des hannetons?
Non, c'est comme des... Ah, c'est des hannetons, peut-être, je sais pas.
Alors, c'est assez difficile de s'en débarrasser des hannetons, parce que c'est une durée de vie assez longue, mais il faut faire aussi attention, il y a un autre vert blanc qui est protégé, donc vérifier peut-être...
Ah, okay.
Peut-être passer, enfin...
Chez un jardinier.
Voilà, avec un verre, pour être sûr que ce ne soit pas une espèce protégée. Parce que sans photo, comme ça, c'est un petit peu difficile de l'identifier.
Ah d'accord, extra. Alors je vous remercie beaucoup.
J'aurais essayé, mais c'est difficile sans l'image.
Je me demandais si elle vide complètement la terre et elle la change.
C'est les arbres qui sont dedans qui risquent d'en souffrir. Donc,
Oui, je n'ai pas pensé au
plan. Voilà, exactement. Exactement, voilà. Alors on vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous, Sylvia. Bonne journée.
Bonne journée.
Vous pouvez faire comme Sylvia et nous appeler au 0901 70 20 20 pour parler directement à Tom le jardinier, poser vos questions avec tous les détails dont vous avez envie. On va parler fleurs, tiens. Comestibles, on parlait justement du sorbier des oiseleurs où on peut manger les fruits. Là, c'est Pamela, elle aimerait planter des fleurs comestibles. Alors, quelles fleurs elle peut planter et manger?
Alors, maintenant, si on va dans une jardinerie bio, on peut trouver des pensées qui sont comestibles dans une salade, par exemple. C'est un petit goût un peu poivré comme ça. Mais pour plus tard, donc dans les plantes annuelles, il y a la calendula ou le souci, la centaurée et surtout la grande reine des fleurs comestibles, c'est la capucine, donc ces petites fleurs oranges qu'elle peut semer d'ici mi-mars et puis pour les planter une fois que les saines glaces seront passées après le 15 mai.
Et ça, toutes ces fleurs, on les mange plutôt en salade. On va pas les faire frire ou au four.
Alors,
je sais pas si vous avez des
la fleur de courgette a tendance à faire en beignet ou d'autres recettes. Moi, les fleurs de capucine, les fleurs comestibles, je les vois souvent sur une salade ou juste décoratives sur un plat. Pour ceux qui aiment que tout ce qui est dans l'assiette se mange, mais je sais pas. Il y a le je soucie, je sais que ça, on en fait aussi des pommades, mais je sais qu'elle est aussi comestible, donc.
Comme le calendula aussi, hein, on met ouais. Dans des produits cosmétiques souvent.
C'est ça.
Donc affaire à suivre.
Hein. Et on va rester dans le comestible hein, ce matin, c'est un peu le sujet. Quoi. Avec cette question de Hugo qui vit à 700 mètres d'altitude, il a planté des crosnes, je ne sais pas comment.
Crosnes,
je pense, du Japon en pot, mais il a oublié de les récolter. Les pots sont toujours dehors et les plantes tirent une sale tronche, hein, faut dire ce qui est. Mais est-ce que sous terre, les crosnes sont encore comestibles?
Alors, oui, les crosnes sont probablement encore comestibles. Je pense que ces pots, il ne les a pas laissés au milieu du jardin, mais ils sont un petit peu abrités. S'ils n'ont pas gelé, si la plante... alors, elle tire certes une sale mine, mais c'est la partie superficielle, donc hors du sol, qui a eu le froid. Donc, je pense que c'est la bonne... Enfin, il faut essayer de les récolter. S'ils voient que ces crosnes, ils sont... flasque, tout mou, pas comme une racine vivante, je ne les consommerai pas, mais c'est vraiment, enfin, si c'est en pot, tout ça, ça ne devrait pas trop poser de problème.
On pourrait rappeler à quoi ressemble un crosne et quel goût ça a?
Alors, ça a un goût de noisette, et puis, comment est-ce que ça se cuisine? On les passe avec du gros sel, ça fait c'est des petites racines, un peu, ça ressemble presque à des vers.
Ouais, mais... ça dirait des vers.
Mais on les passe entre les doigts avec du gros sel pour les nettoyer. Pas besoin de les passer trop de fois sous l'eau parce que ça risque de perdre son goût. Et puis on les poêle avec un petit peu de beurre et du gros sel.
Voilà, c'était ce matin, c'est les conseils culinaires de Tom le jardinier. On va parler d'arbres avec une question de Michel de La Chaux-de-Fonds. Il a envie de tailler un Raphiolepis, un arbuste persistant qui fleurit en grappe rose au printemps, en arbre nuage. Alors, est-ce que c'est possible?
Alors, je dois dire que je ne connais pas le Raphiolepis, moi non plus. Je lui conseille d'essayer de poser sa question quand il y a les paysagistes qui sont là, qui sauront mieux lui répondre. Peut-être essayer, je ne sais pas qui est la semaine prochaine, mais peut-être que la semaine prochaine, on pourrait y répondre à sa question.
On va garder la question de côté pour la semaine prochaine. Justement, l'heure tourne et puis on va passer à la désormais question traditionnelle, Sophie, pour Tom le jardinier.
La question traditionnelle qui est tout simplement, eh bien, on est le 2 mars, hein, il fait mi-chaud, mi-froid. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire au jardin en ce moment?
Alors, c'est le moment de préparer tout ce qui va pour faire nos semis. Moi, je conseille toujours de semer les piments, les aubergines, les poivrons, un petit peu avant les tomates, parce que c'est une culture plus lente, hein, donc ça va plus de temps à germer. c'est gentiment le moment de semer nos poivrons, nos tomates, un petit peu plus tard, vers la mi-mai, fin mars, excusez-moi, pour les planter justement à mi-mai au jardin.
Donc là, on prépare les semis en intérieur, on en a quoi ?
Oui, bien sûr, à l'intérieur, sur un rebord de fenêtre, avec bonne exposition au soleil, pas que les plantes s'étiolent ou elles filent au soleil, qu'on dit, ça fait des longues tiges avec quelques petites feuilles au bout. Donc c'est le moment, si on sème nos tomates et nos poivrons, nos aubergines, de le faire à l'intérieur.
Et vous conseillez directement dans un terreau ou plus dans... Il y a ces petits pots en coco en...
Alors, moi, je les sème d'abord en plaques ou en plaques à l'évolée, en plateau de semis. Et après, moi, je les repique là-dedans. Le meilleur, je trouve que c'est meilleur de faire ça comme ça. Comme ça, on peut les repiquer juste au niveau des premières feuilles. Comme ça, ça fait une tige un petit peu plus longue. Donc, il y aura un petit peu plus de racines pour la plante après pour repartir.
Merci Tom le jardinier. On rappelle qu'on peut vous retrouver, enfin qu'on peut retrouver vos vidéos et du coup vous-même, vos vidéos de conseils en jardinage sur votre site tomlejardinier.com, Tom le jardinier en un mot, et on peut vous suivre sur les différents réseaux sociaux. Là là. Merci Tom, bonne journée.
Merci beaucoup à vous.
Merci
beaucoup et à la toute prochaine.
À bientôt Tom, merci. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Bonne journée.
7h, 8h, les jardinières.